Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Singapour prêt pour le sommet historique Donald Trump-Kim Jong-un.
Elle est historique parce que, au fond, symboliquement, elle va pouvoir mettre fin à la guerre de Corée.
Refusée par l'Italie, refusée par Malte, c'est l'Espagne qui accepte un navire avec plus de 600 migrants. En Centrafrique, un casque bleu burundais a été tué à Bambari. Au Burkina Faso, la question des rémunérations des agents de la fonction publique fait débat. Quel est le rôle de la CPI? Certains se posent la question après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba.
Cet acquittement nous conforte dans le fait que la CPI est une organisation qui va juger réellement selon les droits du prévenu.
Mais aussi dans la Minute Éco, la Côte d'Ivoire veut développer son réseau électrique et le Sénégal a terminé sa préparation du mondial par une victoire dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Et le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont engagés dans les ultimes préparatifs à la veille de leur sommet historique. Le président américain se dit confiant et impatient. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Je pense que cela va très bien se passer, a déclaré Donald Trump à l'occasion d'un déjeuner avec le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Heureux d'être à Singapour, excitation dans l'air, avait tweeté un peu plus tôt le locataire de la Maison Blanche. Il s'est entretenu par téléphone avec le président sud-coréen Moon Jae-in et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le tête-à-tête entre les deux hommes sera suivi d'une réunion avec leurs équipes respectives, puis d'un déjeuner de travail. La Maison Blanche a affirmé hier que les discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord ont progressé plus rapidement que prévu. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré Kim Jong-un à deux reprises, s'est dit très optimiste quant aux chances de réussite. Il a souligné que les États-Unis sont prêts à apporter à la Corée du Nord des garanties de sécurité en échange de sa dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. En 1994, puis en 2005, des accords ont été conclus mais n'ont jamais été appliqués. Depuis, Pyongyang a multiplié ses essais nucléaires et balistiques.
Et nous reviendrons sur ce sommet dans notre partie magazine. En Afghanistan, au moins 13 personnes sont mortes, 31 blessées à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique. Un kamikaze a fait détonner son gilet explosif à l'entrée du ministère, tuant et blessant plusieurs employés. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police. Et l'ex-président panaméen Martellini est extradé par les États-Unis vers son pays. Il est accusé d'avoir détourné des fonds publics pour créer un réseau d'espionnage lorsqu'il était à la tête du Panama entre 2009 et 2014. Il avait été arrêté à Miami en juin 2017 et incarcéré dans l'attente de l'examen de la demande d'extradition formulée par son pays. Le pape François a accepté la démission de 3 évêques chiliens, dont celle du très controversé Juan Barros, à la suite d'un vaste scandale de pédophilie dans le clergé. L'ensemble de l'épiscopat du Chili avait présenté sa démission en bloc le 18 mai dernier, après une série de rencontres avec le pape argentin au Vatican.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Et l'actualité africaine à Madagascar, le nouveau premier ministre de consensus, Christian Tsai, a mis en place son gouvernement. Le calendrier électoral a aussi été modifié, rapprochant les prochaines élections à septembre et non plus à la fin de l'année. Malgré l'annulation des dispositions les plus contestées des textes, l'opposition proteste quotidiennement pour le départ du président élu fin 2013. En Centrafrique, un casque bleu burundais a été tué à Bambari dans le centre du pays lors d'affrontements entre des hommes armés, des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique, selon une source de la gendarmerie de Bambari. En République démocratique du Congo, le comité des laïcs catholiques exige une enquête avec l'appui de la MONUSCO, la mission des Nations Unies, sur la mort de l'activiste Luc Nkulula qui a péri dans l'incident de sa maison samedi. Et au Burkina, la question des rémunérations des agents de la fonction publique fait débat. La fronde sociale se durcit davantage à la veille de la conférence sur la rémunération des agents publics. Le premier ministre Paul Kabatieba rassure figure des syndicats qui ne souhaitent pas prendre part aux discussions. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
La conférence sur le système de rémunération des agents publics s'ouvre mardi à Ouagadougou, au même moment où le contexte social reste agité, caractérisé par des grèves et sittings. Pire, une trentaine de structures syndicales refusent de prendre part à la conférence. Le Premier ministre Paul Kabatieba, obligé de lancer un appel aux syndicats.
Je voudrais inviter l'ensemble des forces vives de ce pays à une participation active, à participer activement.
L'objectif recherché à cette conférence est de parvenir à une refondation du contrat social avec les travailleurs du secteur public, fondée sur les principes d'équité, de soutenabilité budgétaire et de la solidarité nationale, a annoncé Paul Kabatieba. Les mesures qui seront issues de cette conférence permettront d'assurer la pérennité du système de rémunération des agents de l'État au Burkina Faso, a-t-il fait savoir. Avant d'ajouter, la conférence va permettre de trouver une solution définitive aux revendications sociales des travailleurs. C'est la première fois au Burkina Faso qu'une telle rencontre se penche sur la question des salaires des agents de l'État. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et un autre mouvement de grève au Tchad. Le personnel de la justice décide de poursuivre leur grève jusqu'au 13 juin. Ils exigent le limogeage des autorités militaires et civiles citées dans l'agression d'un avocat. Selon le responsable national de la Chambre des huissiers du pays, les grévistes demandent au gouvernement, outre leur limogeage, de les mettre à la disposition de la justice. Au Mali, des jeunes de Kenyeba ont saccagé et incendié la sous-préfecture, le domicile du préfet, du sous-préfet et d'un député. Aussi, les toutes nouvelles cartes d'électeurs pour l'élection présidentielle du mois prochain seraient ainsi parties en fumée. Alors, comment en est-on arrivé là? Modibo Dembélé a joint Idrissa Kané, préfet de Kenyeba.
Ce qui s'est passé ce matin est le couronnement d'un malheureux processus. Le 21 mai 2018, il y a certains travailleurs de la mine, qui sont des jeunes de Kenyeba, qui ont barricadé les portes d'accès de la mine, empêchant du coup les travailleurs de rentrer et les employés de la mine qui sont là-dedans de sortir. Donc, quand ils ont fait ça, le directeur de la mine m'a saisi, m'a dit de parler à ces gens-là pour qu'ils puissent libérer. J'ai envoyé mes deux adjoints, plus le maire, son adjoint, le président de l'Ecotrad, les responsables militaires, pour leur dire de lever les barrages, de venir, on va négocier. Ils ont dit non, ils ne négocient pas. Ils ont des doléances, mais leur doléance principale, c'est le licenciement de la directrice des ressources humaines de Gongoto. Gongoto, c'est le nom de la mine. Donc, la mine a suspendu ceux qui étaient dans cette situation. Donc, dès qu'ils ont été suspendus, ils sont venus me voir pour me demander d'écrire officiellement à la mine pour leur dire d'annuler la procédure qu'ils ont engagée contre eux. Sinon, ils vont faire la même chose que ce qui est arrivé à Jean Fouilla. Donc, c'est en application de cette décision à leur niveau, qui sont sortis en masse ce matin. Ils ont enlevé toutes sortes de personnes. Donc, ils ont marché sur le cercle, ils ont pillé le cercle, ils ont pillé ma résidence, ils ont pillé le véhicule de fonction, les véhicules privés, ils ont tout pillé. On est à ce niveau aujourd'hui.
Et c'était Idrissa Kané, le préfet de Kenyeba dans l'ouest du Mali. En Guinée, l'éboulement d'une mine d'or fait 5 morts et 2 blessés. Cette mine se trouve dans la préfecture de Sigiri, dans le nord-est du pays. Et selon le vice-président du district endeuillé, Youssouf Simagan, plusieurs personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'éboulement et il aurait fallu de longues heures pour récupérer certaines victimes. Ce bilan vient s'ajouter à celui survenu en avril dernier dans la même préfecture et qui avait occasionné la mort d'un jeune orpailleur dans un puits d'exploitation. L'Espagne a finalement accepté d'accueillir 629 migrants bloqués au large de la Libye. L'Italie et Malte avaient refusé de les accueillir dans leur port d'embarcation. Le point avec Marie Benson.
L'Espagne a finalement accepté de recevoir ces migrants. Le navire doit maintenant parcourir une longue distance pour arriver à la côte espagnole. Les vivres commencent à se faire rares sur le bateau. Le gouvernement maltais a donc promis d'y acheminer de la nourriture. Depuis hier, 629 migrants à bord d'une embarcation étaient en rade en Méditerranée, dont 7 femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs non accompagnés. Ces migrants souhaitaient débarquer à Malte ou en Italie, mais les deux pays ont fermé leurs portes. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dit qu'il ne voulait pas que son pays devienne un énorme camp de réfugiés. De son côté, le premier ministre maltais, Joseph Muscat, avait refusé d'ouvrir son port pour accueillir le navire, malgré les appels des Nations Unies.
Et le roi Mohamed VI du Maroc et Muhammadu Buhari, président du Nigeria, vont avancer un méga projet de gazoduc. Un accord de coopération à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé à Rabat à l'occasion d'une visite officielle de 2 jours du président nigérian. Ce projet consiste en une extension vers le Maroc d'un gazoduc qui fonctionne depuis 2010 et qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Et en Côte d'Ivoire, 200 millions de francs CFA sur 1 milliard de francs CFA recherchés ont été mobilisés par la communauté musulmane ivoirienne un mois après le lancement du projet de création d'une télévision nationale islamique, Al Bayan, lancé en mai dernier. Et voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a vu un programme de développement de son réseau électrique et ambitionne d'atteindre la barre des 4000 MW en 2020 et 6600 MW en 2030. Abidjan envisage aussi de faire participer les énergies renouvelables à hauteur de 11% d'ici à 2020 et 16% en 2030. La Côte d'Ivoire dispose actuellement d'un réseau de 5000 km de lignes à haute tension et d'une puissance installée de 2200 MW. Chaque année, la demande brute nationale augmente de 5%. Le pays exporte aussi vers le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Bénin ou le Togo. Au Cameroun, des épaves de vieux bateaux entravent l'activité et la compétitivité du port de Douala depuis 33 ans. Ce sont au total 80 épaves de bateaux qui encombrent le port de Douala. Le retrait de ces bateaux abandonnés va coûter légèrement moins de 5 milliards de francs CFA. Cette semaine, on a commencé à les enlever. Dans un premier temps, 25 épaves présentées comme les plus dangereuses seront enlevées sur 8 mois. Plus de 95% du trafic portuaire du Cameroun passe par le port de Douala, le plus grand d'Afrique centrale. Le Nigeria veut ressusciter la filière cacao pour diversifier son économie. 90% des revenus d'exportation et 70% des recettes de l'État proviennent du pétrole.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Le Sénégal termine sa préparation du mondial par une victoire.
Et oui, après 3 matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0 également, et une défaite contre la Croatie 1-2, les Lions de la Teranga ont renoué avec le succès en s'imposant 2-0 face à la Corée du Sud en Autriche pour leur dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Dans une rencontre disputée à huis clos et sans caméra, peu d'informations filtrées. Les hommes d'Aliou Cissé ont ouvert le score sur un but contre son camp, consécutif à un centre de Pape Aliou Ndiaye, 54e minute, puis Moussa Konaté a fait le break sur pénalty en fin de partie à la 85e. Cette victoire face à un autre mondialiste, la première en 2018, va faire du bien aux Lions avant leur entrée en lice au Mondial le 19 juin contre la Pologne.
Et Mohamed Salah n'a pas participé au premier entraînement des Pharaons à Grozny en Russie.
Blessé à une épaule il y a 15 jours lors de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Mo Salah a assisté à cette séance d'entraînement sur la pelouse de l'Akmat Arena. Les choses évoluent dans le bon sens et Momo moral est excellent, a confié l'attaquant vedette de Liverpool. Mohamed Abou Al-Efa, le médecin de la sélection égyptienne, a indiqué que Salah était toujours incertain pour le premier match contre l'Uruguay le 15 juin. Les Pharaons doivent également affronter dans le groupe A la Russie le 19 juin, puis l'Arabie Saoudite le 25 juin.
Marché des transferts, Etebo interrompt sa préparation pour signer avec Stoke.
Le milieu nigérian qui s'apprête à disputer le Mondial 2018, après avoir fini la saison avec Las Palmas, a interrompu sa préparation pour signer un contrat de 5 ans avec Stoke. Le joueur de 22 ans, international à 14 reprises, a cédé au club anglais pour 7,2 millions d'euros. En Russie, il affrontera avec les Super Eagles, l'Argentine, la Croatie puis l'Islande dans le groupe D.
Et enfin, Patrick Vieira, lui, est le nouvel entraîneur de Nice.
L'ex-milieu de terrain de l'équipe de France, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000, avec les Bleus, va succéder à Lucien Fabre au poste d'entraîneur de l'OGC Nice. Jusqu'ici entraîneur du New York City FC en MLS, Vieira, 41 ans, a paraffé un contrat de 3 ans. Au cours de sa carrière de joueur, il a porté les maillots de l'AC Milan, d'Arsenal, de la Juventus Turin, de l'Inter Milan, avant de prendre sa retraite en 2011 à Manchester City. L'ancien capitaine des Bleus, 107 sélections, a débuté sa carrière d'entraîneur à la tête des jeunes de Manchester City, les moins de 19 ans, puis les moins de 21 ans, avant de s'engager à New York.
Merci Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin, toujours avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. À Singapour, le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont engagés dans les derniers préparatifs de leur sommet demain mardi, le 12 juin. Alors pourquoi cette rencontre très attendue est qualifiée d'historique? Idriss Fall, adjoint à Paris, Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et spécialiste des deux Corées.
Elle est historique parce que, au fond, symboliquement, elle va pouvoir mettre fin à la guerre de Corée. Et donc, à un moment très particulier de l'histoire de la péninsule coréenne, elle va pouvoir modifier, je dirais, l'ordre sécuritaire qui a découlé de cette guerre de Corée, avec une présence militaire américaine très forte, des relations de sécurité très fortes entre les États-Unis et la Corée du Sud, et donc va permettre de revoir le positionnement stratégique des uns et des autres.
Mais est-ce qu'on s'attend à des percées?
Un traité de paix sera très facile à atteindre, à négocier, à signer tout de suite, puisqu'au fond, la péninsule est restée depuis près de 70 ans sous un régime d'armistice qui était quand même assez anormal. En revanche, on parle beaucoup de la dénucléarisation, qui est quand même une étape extrêmement importante de la rencontre. Mais cette dénucléarisation, elle sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il faut être réaliste. Elle ne peut pas intervenir demain et faire l'objet d'un accord entre Trump et Kim Jong-un. Et le président américain en a convenu lui-même en disant récemment que c'est un processus qui sera long. Et on imagine qu'il va y avoir un communiqué où on parlera effectivement de la bonne volonté des uns et des autres concernant la dénucléarisation, mais que le processus sera mis en œuvre par des équipes techniques qui vont intervenir et discuter après la rencontre au sommet des deux dirigeants.
Justement, que signifie dénucléarisation? Qu'est-ce que ça signifie?
Le problème, c'est qu'on a bien le sentiment que dans l'esprit américain et dans l'esprit nord-coréen, ça n'est pas la même chose. Puisque depuis le début, on a entendu parler et revenir à un concept qu'on connaissait déjà, qui est la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Le sigle CVID en anglais. Pour la Corée du Nord, la dénucléarisation n'intéresse pas uniquement le programme nucléaire nord-coréen et sa relation avec les États-Unis, mais doit être compris comme un problème régional. Parce que dans toutes ces déclarations, finalement, Kim Jong-un parle de dénucléariser la péninsule et a bien dit à plusieurs reprises qu'effectivement, il ne voyait pas l'utilité de conserver un programme nucléaire si des garanties de sécurité suffisantes lui étaient accordées. Donc on voit bien que de part et d'autre, on a une vision très claire de ce que doit être la dénucléarisation et ce n'est pas une vision qui est convergente.
C'était donc Marianne Perrondoise de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France et spécialiste des deux Corées. Et toujours dans le dossier nord-coréen à la veille du sommet, quel a été le rôle de la Chine? Timothée Donogmai a joint James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
On peut penser que la Chine veut que la Corée du Nord continue à agacer les États-Unis. Ça joue dans leur perspective d'avoir quelqu'un qui peut agir contre les États-Unis. Mais, par contre, il est aussi vrai que la Corée du Nord et la possibilité d'une guerre ou de problèmes entre la Corée du Nord et les États-Unis est un problème pour la Chine. Il veut que ce problème soit résolu dans une certaine façon. Donc c'est ce que je vois, c'est une espèce d'ambiguïté. Il joue deux côtés de ce problème en ce qui concerne la Corée du Nord.
Et la Corée du Nord elle-même voudrait également afficher une certaine indépendance vis-à-vis de la Chine.
C'est vrai, mais ils ont aussi rencontré les Russes. Donc ils essaient d'avoir le soutien des Russes et des Chines contre les pressions des États-Unis. C'est un aspect du problème. Et ils dépendent, ça c'est sûr, sur la Chine. Donc pour la Corée du Nord, je pense qu'ils jouent un peu entre les deux côtés. Ils ont réuni récemment avec à la fois la Chine et les Russes. Et maintenant, ils jouent avec les États-Unis. Je crois qu'ils jouent une espèce de jeu des deux côtés pour voir ce qui va arriver.
Mais jusqu'où ce jeu peut-il aller?
Alors ça c'est difficile aussi de déterminer la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'il veut même voir? Parce que on peut dire pour le leader de la Corée du Nord, la chose la plus importante, c'est de maintenir ce qu'ils ont déjà arrivé à avoir, c'est-à-dire la nucléarisation de la Corée du Nord. C'est un moyen de dire que nous avons quelque chose qui est important. Ils ont essayé pendant 20 ans d'années d'avoir cet armement, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire finalement, nous ne le voulions pas? Alors ça, c'est difficile à voir, sauf que les problèmes de la Corée du Nord est tellement difficile. Le nombre de personnes qui n'ont pas de nourriture, le nombre qui sont en prison. L'avenir de ce pays dans cet état est difficile à figurer, vraiment. Donc, ces deux côtés, le gouvernement maintient son pouvoir avec les armes nucléaires, mais à la fois, ça pose des problèmes long terme pour le régime de Corée du Nord.
James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et au Burkina Faso, conférence très attendue demain sur la rémunération des agents publics. L'objectif, selon le Premier ministre Paul Kabatieba, est d'aboutir à une maîtrise de la masse salariale à travers une refondation du contrat social avec les travailleurs. Alors, pour des explications, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Élie Kabouré, journaliste économique.
Depuis que le président Kabore est au pouvoir, le pays a enregistré plusieurs types de grèves sectorielles, des grèves qu'on ne voyait pas au Burkina. Et entre 2016 et 2017, il y a eu près de 68 grèves, jours de grève enregistrés. Et cela a beaucoup impacté sur la mobilisation des recettes. Donc, dans son message de nouvel an, le président a dit qu'il faut mettre fin au règlement des problèmes des travailleurs au cas par cas. C'est vraiment son terme qu'il a employé. Et désormais, il voudrait que la résolution des problèmes de travail se fasse d'une manière globale et durable. Donc, ce qui a amené un peu la convocation de cette conférence, en début février, ils ont remis une étude diagnostique qu'ils ont eu à faire à toutes les parties présentes qui ont accepté participer à cette conférence, qui ont eu à faire des propositions. Donc, la conférence qui s'ouvre demain, c'est de vraiment faire la synthèse des propositions et maintenant définir une solution durable pour toute la fonction publique au Burkina.
Est-ce qu'on va remettre en cause les acquis des travailleurs?
Quand on écoute un peu les experts, un acquis, c'est au niveau du salaire. Alors que les différentes propositions, puisque nous avons eu accès au niveau des documents, les différentes propositions tendent à revoir à la hausse le salaire de base de tous les fonctionnaires. Maintenant, la crainte au niveau de certains corps de métier, comme les finances, la douane, les impôts, c'est qu'ils ont des avantages qui sont, on le peut appeler des motivations. On prélève un certain taux sur les recrutements qui ont été faits pour payer des motivations au niveau des financiers. Et se trouve qu'aujourd'hui, le débat national, c'est que cette motivation dépasse de loin le salaire. Donc, la tendance est de revoir à la hausse des salaires, mais tout en réduisant un peu ces avantages-là.
Alors, il y a certains syndicats qui disent qu'ils ne vont pas participer à la conférence de demain. Quels sont leurs arguments?
Le principal argument que ces syndicats avancent, et la conférence devait se passer entre le gouvernement et les travailleurs. Cette conférence devait plutôt discuter de la répartition des richesses nationales. Mais quand vous lisez un peu les propositions que les uns et les autres ont eu à faire, il ne s'agit pas d'aller discuter seulement des questions de rémunération salariale, mais c'est vraiment les aspects abordés par cette partie des syndicats qui refusent d'y aller. C'est-à-dire comment gérer toute cette richesse naturelle, les ressources naturelles, et les ressources minières, les ressources forestières, etc. etc. Donc, certains ont même proposé que l'on inclut dans le système de rémunération qui sera discuté les salaires et les avantages du président du FASO, du premier ministre, des membres de son gouvernement, le président des institutions, des ambassades, etc. etc.
Élie Kaboré, journaliste au journal L'Économiste à Ouagadougou.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe. Josèle Morissin à la mise en onde, Wojtek Zourniak à la console, Raïssa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayigouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
bienvenue à bord.